tous. Dernière semaine de la Grande Table en compagnie des penseurs et des créateurs. À 13h50, François Sureau nous fera découvrir Sainte-Adresse, banlieue du Havre, où l'homme d'affaires Georges Dufayel créa le Nice Havré. Mais avant cela, nous allons revenir sur l'affaire qui hante la presse depuis bientôt 10 ans. Une affaire lourde des vies qu'elle a détruites et des questions qu'elle laisse en suspens. Celle-ci porte le nom de celui que l'on croit souvent reconnaître, Xavier Dupont de Ligonnès, mort ou disparu, évaporé alors que tant d'esprits se penchent sur son histoire, tant de lecteurs sur les lignes qui le racontent. Cet été, le magazine Society y consacre 2 numéros, 76 pages, 2 volets d'une enquête que l'on s'arrache, qui remet la relation entre faits divers et journalisme sur la table, interroge sa narration et les fantasmes qu'elle suscite. Nos invités aujourd'hui sont journalistes et professeurs de lettres et d'histoire, tous spécialistes du fait divers, Pierre Boisson, Dominique Khalifa et Christine Marcandier. Bienvenue à tous sur France Culture.
La grande table d'été, Maëlys Besserie.
On peut désormais parler d'une exécution méthodique d'Agnès Dupont de Ligonnès et de ses 4 enfants. Ils ont été tués selon toute vraisemblance pendant leur sommeil et au moyen d'une arme à feu, vraisemblablement une arme de calibre 22 long rifle. Les recherches ont établi que Xavier Dupont de Ligonnès avait récemment hérité de son père d'une carabine du même calibre qui pour l'instant n'a pas été découverte. Des projectiles de 22 long rifle ont été achetés vraisemblablement par lui également. Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable et seul son véhicule de marque C5 a été découvert à proximité d'un hôtel à Roquebrune-sur-Argence. La poursuite de sa recherche et son témoignage sont évidemment essentiels pour déterminer précisément les causes de ces 5 morts.
Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Alors, avant de revenir sur les propos du procureur de la République de Nantes, Xavier Roussin, quelques mots quand même sur votre CV particulier. Pierre Boisson, vous êtes rédacteur en chef du magazine Society, co-auteur de l'enquête et des 2 numéros consacrés à Xavier Dupont de Ligonnès, paru les 23 juillet et le 6 août dernier. Dominique Khalifa, vous êtes professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, spécialiste de l'histoire du crime et de ses représentations au 19e et 20e siècle. Et avec Emmanuel Blanchard, vous êtes auteur d'une série sur Arte, Faits divers, l'histoire à la une, qui décrypte les faits divers et la couverture médiatique jusqu'à la légende. Christine Marcandier, vous êtes professeure de lettres à l'Université Aix-Marseille, également critique littéraire et spécialiste de la fictionnalisation des faits divers du 19e. À nos jours, vous avez cofondé le journal culturel en ligne Diacritique en 2015, dans lequel on retrouve notamment votre série Crimes, écrits, littérature et faits divers. Alors tous les trois, quelques mots d'abord peut-être sur ces propos de Xavier Roussin. C'était au journal de France Inter le 23 avril 2011. Au moment de la découverte des corps. Pierre Boisson, où en êtes-vous à ce moment-là de vos réflexions quand vous revenez dans l'enquête sur ces propos de Xavier Roussin ?
En fait, c'est marrant parce que c'est le jour de la découverte des corps, le 21 avril, et aussi le jour de la découverte de la voiture de Ligonnès qui a donc été abandonnée, comme le dit le procureur, sur le parking d'un Formule 1. Et tout de suite, les enquêteurs comprennent qu'ils ont beaucoup de retard. C'est-à-dire que les dernières images de vidéosurveillance du Formule 1 datent du 15 avril. Là,
vous parlez en spécialiste, mais il faut reprendre quand même les bases de l'histoire. Xavier Dupont de Ligonnès disparaît. Il laisse un courrier à ses amis.
Il disparaît. Enfin, les crimes ont lieu les nuits du 3 et 4 avril. Enfin, du 3 au 4 et du 5 au 6, il envoie un courrier extravagant à ses amis, avec une histoire d'exfiltration aux États-Unis, de témoins protégés pour la DEA. Puis il y a une cavale où il laisse des traces, en fait. On sait qu'il parcourt la France, donc de Nantes, là où les crimes ont été commis, jusqu'à Roquebrune-sur-Argent dans le sud, en passant dans la banlieue de Toulouse.
Par un certain nombre d'hôtels, un certain nombre de lieux où son portable, d'ailleurs, borne à un certain nombre d'endroits.
Il utilise son téléphone, il se fait même flasher au volant de sa voiture, il paye par carte bleue, donc voilà, plein d'indices qui donnent des traces, en fait. On peut reconstituer sa cavale.
Où il ne se cache pas, d'ailleurs, on a le sentiment en tout cas qu'il laisse des traces, qu'il ne se soucie pas plus que ça.
C'est toute la particularité de cette cavale, c'est qu'à la fois il y a des traces très claires qui sont laissées, et en même temps ce que nous on a découvert au cours de notre enquête il y a aussi une volonté finalement d'effacer certains souvenirs qu'il aurait pu laisser. Il essaye de faire en sorte que le passé ne remonte pas. Par exemple, il a sur ses serveurs informatiques, il efface juste avant de disparaître 7700 fichiers informatiques. C'est énorme. Il n'a pas envie qu'on retrouve les photos de sa famille, il n'a pas envie qu'on retrouve des courriers qu'il avait stockés sur ses serveurs. De la même manière, quand les policiers rentrent dans la maison pour la première fois, il n'y a plus aucune photo dans les cadres. Tous les cadres de photos de la maison sont vides. C'est étrange. Et même dans l'utilisation de son téléphone, par exemple, il ne l'allume qu'à quelques reprises, comme s'il savait... Il a l'air de savoir que ça va pouvoir permettre aux enquêteurs de remonter sa trace. Donc cette dichotomie entre des traces laissées de manière évidente, comme s'ils voulaient qu'on le suive...
Des fausses pistes, en tout cas des amorces. En tout cas, c'est la réflexion qu'on pourrait avoir à ce sujet. Christine Marcandier, quand on pense aux faits divers, alors c'est vrai que l'affaire Ligonnès donne lieu déjà à des fictions. Il y a eu des fictions télévisées, il va y avoir une série bientôt. Ceci n'est pas nouveau, mais on a le sentiment que la lecture et la relecture du fait divers donnent des allers-retours entre la fiction créée peut-être par celui qui ordonne ses crimes et celui qui les commet, hein, qui peut-être fait fiction auprès des investigateurs. Et de l'autre côté, il y a ce que les regards des auteurs, des artistes vont porter sur cette fiction.
Oui, il y a des liens très intimes entre la fiction et le fait divers, mais le fait divers est déjà lui-même une fiction. D'ailleurs, Dominique Khalifa est là, et c'est lui qui a parlé du fait divers comme n'étant pas un événement, mais déjà un récit. Et il y a un premier récit qui est un récit médiatique, et avant même le récit médiatique, peut-être, il y a le récit que construit le criminel.
Intérieurement
et même extérieurement, c'est-à-dire ce que disait Pierre à l'instant sur le fait qu'il a construit une cavale qui est déjà une espèce de dichotomie entre je me cache et je me montre. C'est un auteur de fiction qui a construit l'idée qu'il était parti aux États-Unis, qu'il était un témoin protégé, etc. Et Marc Duguin, très tôt, a écrit dans Vanity Fair, dans la tête de Xavier Dupont de Ligonnès, que c'était un auteur d'une très mauvaise fiction, c'est-à-dire une fiction qui ne tient pas, en fait. Et donc, il y a ces liens absolument intimes.
Ah, Dominique Khalifa, oui. Secoue la tête, elle tient, elle tient pas.
On lit l'enquête de Society, on est là pour en parler, il y a plein de gens qui... Enfin,
surtout, c'est toujours pas où il est.
La fascination pour cette affaire est terrible. Donc, à la fois, c'est vrai que son histoire est pas, elle est bancale par plein de côtés, mais il a une capacité du pont de Ligonnès à fabriquer de l'énigme qui est extraordinaire, quoi.
Alors, est-ce que c'est ça la caractéristique du fait divers? Est-ce que c'est ce recroisement avec peut-être des thématiques de l'époque et un jeu de cachet dévoilé?
Oui, je crois que Christine a dit quelque chose qui est important et qu'il faut répéter. C'est pas l'événement. D'ailleurs, le français est la seule langue pour laquelle, effectivement, le même terme peut caractériser un type d'événement. Oh tiens, c'est un fait divers. Et puis, le récit qu'il porte. Mais sans récit, sans la structure de récit, que ça soit celle qui imagine le premier reporter qui va noter, le gendarme qui va écrire le premier PV, ou vous, Pierre, qui avec votre collègue écrivait un autre récit, sans ça, il n'y a pas de fait divers. Le fait divers, il est là, et donc il se réactive en permanence par toutes les lectures et par toutes les écritures qu'on peut porter sur lui.
Et en même temps, tous les faits divers ne marchent pas. C'est-à-dire toutes les histoires, toutes les affaires ne font pas faits divers, Dominique Khalifa. Donc il faut bien qu'il y ait une résonance.
Si on regarde les journaux, il y a c'est un cimetière de faits divers perdus et oubliés et sans intérêt qui ont pas. Donc il y en a très peu qui arrivent effectivement, qui prennent et dont la narration. La narrativité parvient effectivement à faire marcher l'affaire. Et là, Dupont de Ligonnès, oui, parce que ça vous permet d'écrire ces 70 pages-là et de faire encore marcher notre attention, notre imaginaire, notre...
Hein. Alors Pierre Boisson, quels sont justement les mots d'ordre qui ont été établis entre vous? Vous êtes trois journalistes à avoir suivi...
Quatre,
cette investigation, trois plus vous. Comment est-ce que vous... Quels sont justement les mots d'ordre? Comment est-ce qu'on raconte cette histoire? Il y a une volonté de la raconter un peu à plat, sans prendre position. Et en même temps, on voit bien à l'intérieur du récit que c'est difficilement possible.
Le récit s'est vraiment construit au fur et à mesure. On ne savait pas forcément sur quoi on partait, honnêtement, parce qu'on ne pensait pas notamment prendre toute cette place. Mais on avait quand même des mots d'ordre qu'on s'était fixés nous-mêmes. Notamment, on ne voulait pas, par exemple, se mettre dans la tête de l'assassin. Moi, moralement, éthiquement, c'est quelque chose que je ne peux pas faire, me mettre dans la tête de Ligonnès. Donc, on ne voulait pas faire de conjectures, de supputations. Ce qui est très difficile, parce que c'est une affaire, justement, qui porte à la théorie. C'est un fait divers qui fonctionne, je pense, parce que il y a un mystère. Et comme il y a un mystère, il y a des théories qui se mettent en place.
Parce qu'il est irrésolu, c'est ça que vous voulez dire.
Parce
si on l'attrape, c'est fini. D'ailleurs, c'est ce que vous vous êtes demandé. Donc, quand on a cru, encore une fois, voir Ligonès en Écosse, vous vous êtes dit, l'enquête est foutue.
Ben non, on s'est dit, notre travail part en lambeaux ou part en fumée, parce que tout ce qu'on avait fait avant était terminé. À partir du moment où on retrouve Ligonès, toutes les questions qui sont restées sans réponse, celles qu'on se pose aujourd'hui et qui font qu'effectivement il y a une fiction et il y a un récit qui est possible de construire, elles seront, c'est terminé. Donc nous, quand on voit que Ligonès a été arrêté, c'est vrai qu'on se dit, bon ben c'est terminé. Et quand on voit que finalement c'était pas vrai, on se dit, ok, on se met un coup de pied aux fesses, on va reprendre notre travail à zéro, et par contre on va s'y consacrer à 100% maintenant, parce que ce récit-là, en fait, il est quand même, on a plein de choses à raconter dessus, il faut l'écrire, et il y a une histoire qui est pleine de rebondissements, l'affaire de Guy Joao en est une des dernières, mais nous, les coïncidences, les cul-de-sac qui sont en permanence, sur lesquels tombent les enquêteurs, ça nous a beaucoup intrigués et ça nous a vraiment permis de construire un récit fait de nœuds. C'est-à-dire qu'on va dans un sens, ça s'arrête, on recommence. C'est très sisyphien comme enquête et dans le récit, on a essayé de jouer vraiment cette nécessité de remonter en permanence à un rocher en haut d'une montagne.
Alors d'un point de vue narratif, Christine Marcandier, quand on reprend cette affaire, d'ailleurs c'est la couverture des deux numéros de Society, le puzzle, c'est peut-être la caractéristique aussi de ce récit du fait divers, c'est que il y a toujours de multiples entrées, qu'on a toujours le sentiment qu'on va arriver au bout de l'histoire et qu'on revient toujours au point de départ. Est-ce que c'est ces caractéristiques labyrinthiques du récit qui font le fait divers ?
Exactement, et je crois que c'est une des caractéristiques narratives et qui est extraordinairement mise en valeur par ce feuilleton en deux parties de Society, c'est-à-dire qu'il y a dans un fait divers plusieurs récits, plusieurs romans possibles, plusieurs hypothèses, et chaque fil permet d'arriver à une nouvelle histoire et à quelque chose de différent. Et c'est l'ensemble de ces interprétations qui construit la richesse du fait divers. Et ça me permet de revenir sur deux choses qui ont été dites. Je crois que c'est aussi ce qui fait que certains faits divers défraient la chronique, c'est-à-dire qu'ils sont inépuisables. Et puis, je suis pas certaine que même si on arrêtait Dupont de Ligonnès, ça s'arrêterait. Si on prend l'exemple de Jean-Claude Roman, donc l'adversaire de Carrère, on l'a arrêté, il y a eu un procès, et c'est même ça qui a peut-être encore plus fait naître la fiction.
Mais là, c'est la légende, c'est encore autre chose qui naît peut-être après la
récitation. C'est un indécidable.
Il y a le procès, c'est encore une autre aventure. Dominique Khalifa, on pense...
L'univers est ouvert, d'accord. Donc effectivement, il attire. Mais moi, je pense aussi, comme Christine, que même si... Donc vous avez effectivement beau jeu à pouvoir mettre en scène toutes les hypothèses ou toutes les pistes. Mais je crois effectivement que même si Dupont de Ligonnès était retrouvé vivant ou mort, peu importe, il y aurait d'autres choses qui se mettraient en place. Il y aurait toute cette dimension qu'on trouve parfois chez le fait divers, qui est cette idée que il nous dit peut-être quelque chose d'une réalité insaisissable,
de l'époque, de ses failles, peut-être. Est-ce qu'il y a quelque chose d'un reflet? D'un reflet noir de l'époque.
Oui, bien sûr, il y a ça, parce que c'est le contexte est là, il joue. Mais il y a cette idée, finalement, tiens, cet homme-là qu'on pensait finalement à l'abri de, enfin, au-dessus de tout soupçon, il était ordinaire, il était un peu comme tout le monde. Et donc, il y a toujours cette idée qui traîne dans les grands faits divers, que par-delà l'histoire elle-même, ça nous dit quelque chose de l'irrationnel, de ce qui peut nous arriver, de la fatalité, de ce qui va se passer demain ou pas se passer. C'est une notion un peu d'intersigne, vous voyez, qui nous parle de quelque chose d'autre que que nos consciences mêmes ne sont peut-être pas capables de percevoir immédiatement.
Alors Dominique Khalifa, pour faire justement cette autocritique que nous devons faire aussi du journalisme, comment est-ce qu'on, par quel bout on le prend, le fait divers? Est-ce que finalement, comme c'est un fait qui est pulsionnel en soi, puisqu'il s'agit d'histoires atroces, d'histoires de meurtres, d'infanticides. Comment est-ce que, justement, on fait face à cette question-là du pulsionnel? Il y a la question du voyeurisme d'un côté, de ce que l'on raconte, des détails qu'on donne, qu'on ne donne pas. Et en même temps, on se dit peut-être que la mise en récit, elle a aussi une dimension informative, certes, mais aussi peut-être même au-delà, sublimatoire, cathartique.
Oui,
intellectualisante, nécessaire.
Absolument. Il y a quand même cette dimension première qui, et c'est très net dans votre enquête, feuilleton, enfin investigation, tous les mots que vous voulez, hein, qui est que, et ça c'est vrai de tous les faits divers, c'est quelque chose qui doit nous donner aussi des tas de précisions sur le monde immédiat. les horaires, les lieux. Il y a une précision documentaire dans le fait divers qui nous accroche. Hein. Et là, on retrouve le monde réel que vous évoquez, Maïlys. Et il y a ce métier-là du fait diversier traditionnel qui sait tout noter avec une précision quasi méticuleuse. Et puis, à partir de là, il y a toutes les pistes, effectivement, qui à peine esquissées, qui vont effectivement partir vers des pistes de l'imaginaire, qui vont nous parler d'exotisme parfois. Il a un côté à l'américain, là, qui vont nous parler effectivement de voyeurisme.
Il y a un côté aventurier incroyable dans le personnage.
Il y a le glauque des cadavres, de la façon dont il tue. Il y a de la répulsion, il y a de l'abjection, il y a de la fascination. Et puis, il y a aussi cette affaire, moi, que j'ai toujours trouvé fantastique dans tous les faits divers, et dans celui-là aussi. Finalement, ça nous raconte la vie extraordinaire des gens ordinaires. Vous avez tous vu ce film, ça s'est passé près de chez vous, enfin, vous voyez, mais il y a ça, Dupont de Ligonnès, sa famille, c'est des Versaillais, on pourrait les connaître, on pourrait les croiser, et il y a cette affaire dans le fait divers, et c'est pour ça aussi qu'on s'y intéresse tant.
Et il y a la duplicité aussi.
Ça nous raconte l'histoire extraordinaire de vous et moi, peut-être. Et il y a la duplicité, effectivement, et parce qu'il joue avec ça.
Alors, Pierre Boisson, pour reprendre la question du traitement journalistique, alors il y a d'un côté, vous avez dit, refuser de vous mettre dans la tête du meurtrier, et en même temps, le journaliste, de par ses méthodes, il est obligé de faire comme le tueur, c'est-à-dire de reprendre chaque détail un par un, d'être précis, d'être lui-même enquêteur.
C'est vrai, on travaille de manière un petit peu différente, par exemple, des policiers. La manière dont fonctionne la police est très rationnelle, très froide. C'est ce que disent les enquêteurs quand on les interroge. Ils disent, nous, on prend un fait, ça nous ouvre une piste. On ouvre cette piste ou on la ferme et on passe à autre chose. Donc, c'est pas des policiers américains, c'est pas des policiers de série. Des fois, on aimerait avoir Zodiac, on aimerait avoir des policiers torturés par l'affaire et eux tiennent une apparence froide. Nous, quand on est journaliste, c'est vrai qu'on a la possibilité de partir d'une hypothèse. On n'est pas obligé de justifier des frais, des dépenses. On peut imaginer qu'il est passé par tel endroit et que là, il y avait quelque chose qui jouait. Donc, on peut aller sur place, interroger des gens et partir simplement de conjectures.
Alors ça, il faut le dire, c'est ce que vous faites dans les dossiers. Hypothèse 1, hypothèse 2, coïncidence. Vous revenez sur les diverses coïncidences qui a été considérées comme telles, en tout cas. Les fausses pistes, les pistes possibles avec un système de numérotation. Rotation comme ça, de schémas possibles, de scénarii.
Voilà, ça c'est une manière pour nous, c'était une manière pour nous de montrer le caractère spectaculaire de cette enquête et de la difficulté pour les policiers de travailler dessus. Ces coïncidences, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, les coïncidences elles sont terribles pour quelqu'un qui travaille dessus parce qu'on a l'impression de toucher la solution, la clé est quasiment entre nos mains et au moment d'ouvrir la porte, elle s'évapore. C'est très difficile à raconter dans un récit parce que finalement, on sait qu'on va vers une voie sans issue. Du coup, ça donne pas vraiment envie de raconter tout un chemin pour finalement décevoir le lecteur. Mais si on ne le fait pas, on perd toute la nature de cette enquête. Et puis après, il y a le côté voyeuriste aussi qui est très intéressant parce que nous, on s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'on raconte et ce qu'on raconte pas. Un des exemples qu'on écrit dans la première partie de Society, c'est les affaires intimes et sexuelles du couple Ligonnès. Agnès Ligonnès a écrit pendant des années sur des blogs des témoignages de sa vie sociale, de sa vie sexuelle et de la grande détresse dans laquelle elle se trouvait.
Alors elle a écrit sous pseudo,
De manière plus ou moins voilée, mais c'est quasiment dans le domaine public. Tout le monde a pu le lire au moment où l'affaire a explosé. Il y a eu des enquêteurs un peu anonymes qui ont un peu excavé ces témoignages. Moi, je me rappelle les avoir lus, c'est des soixantaines, enfin peut-être 60 pages Word à lire. Je les ai lus et relus et ça m'a toujours laissé dans un état de mal-être parce que c'est vraiment des cris de détresse d'une femme qui est manipulée par son mari, qui est sous l'emprise de son mari et qui a été aussi frustrée sexuellement par lui dès le début, en fait, que quand ils sont tout jeunes, il lui dit « Oh là, va pas trop loin ». Et en fait, il a ce côté aventurier et puis il a ce côté aussi très conservateur, très moral. Il n'a jamais entendu et pris soin de sa femme. Et du coup, ça, est-ce qu'on le raconte ou est-ce qu'on le raconte pas? C'est des questions qu'on s'est posées. C'est difficile parce qu'on parle de victimes. Et en même temps, moi, je considérais, on considérait que c'était important de le faire parce que ça racontait justement la vie extraordinaire de gens ordinaires. Et ça racontait une dimension sociale importante, en fait, derrière le fait divers.
Alors, c'est aussi une manière de creuser le personnage entre le Versaillais, avec une famille extrêmement religieuse, une mère même qui a créé un mouvement sectaire, en tout cas considéré plus ou moins comme tel.
Qui a été signalé, en tout cas.
Qui a été signalé comme tel. Et de l'autre côté, ce séducteur qui ne l'aimait pas avec sa femme.
Voilà, et ça se répercute sur les amitiés qu'il noue. Il a deux amis intimes, et ça c'est une des grandes choses de notre récit, c'est d'avoir des personnages en fait secondaires, qui sont Emmanuel et Michel. Avec Emmanuel, c'est son ami intime, il le connaît depuis 37 ans. C'est quelqu'un qui vient d'une bonne famille, etc. Donc il a ce côté un peu conservateur de Ligonnès. Et puis de l'autre, Michel, c'est l'aventurier. Ils ont fait un voyage ensemble aux États-Unis en 1989-1990. Ils ont visité 48 États sur 50. C'est le côté aventurier de Ligonnès. C'est un voyage initiatique, ça a transformé l'homme qu'il était. Et puis la famille, je reviens là-dessus parce que c'était très intéressant ce que vous disiez sur le fait que les faits divers sont toujours des fictions et que lui a créé une fiction. Moi, c'est quelque chose qu'on a découvert, je pense, au fur et à mesure de notre enquête. C'est que cette lettre rocambolesque où il annonce qu'il part aux États-Unis, qu'il a travaillé pour la DEA et qu'il est désormais un témoin protégé.
Incroyable même dans sa rédaction, hein. Coucou méga surprise.
Coucou méga surprise avec des lol, des MDR au milieu d'une lettre, des mots en capitale. Enfin, c'est très étrange. Et nous, on s'était toujours dit que c'était l'œuvre de quelqu'un, presque une blague. Et en fait, on a compris au fur et à mesure que c'était aussi une fiction. Et que cette fiction, elle n'était pas adressée au monde extérieur, pas à nous, lecteurs, parce qu'évidemment, on ne peut pas y la croire. Mais elle était adressée à sa mère et à sa sœur, qui, elles, ont toujours aussi vécu dans cette fiction religieuse créée par la mère. Et qui sont les seuls à même à croire à cette fiction. Parce que c'est terrible de comprendre que son fils ou son frère est un assassin, de l'accepter, de survivre à cette découverte-là. Et Ligonnès, d'une certaine manière, en créant cette fiction, il protège sa mère et sa sœur qui vont y croire. Et elles y croient toujours. Et c'est une manière pour elles de survivre, en fait. Donc, il a écrit, en fait, une fiction. Et ça, je trouve que ça rajoute une couche, effectivement, à la fictionnalisation du fait divers. Il y a des fictions dans les fictions.
Christine Mercandier, c'est un peu vertigineux cette question de la fiction, parce que en réalité, quand on voit ces affaires-là de faits divers, notamment celles ligonnaises, on se dit que ces questions de vie et de mort rappellent les grandes fictions fondatrices. Ça rappelle les mythologies antiques, ça rappelle Shakespeare, ça rappelle tous ces grands moments finalement où il est question des plus grandes, des limbes en réalité, des plus grandes pulsions humaines. Alors est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est parce que ça rappelle ces grandes fictions-là que le fait divers peut avoir autant de succès auprès des lecteurs?
Peut-être, mais en même temps, la différence fondamentale, c'est que dans les grands mythes ou dans le théâtre antique, etc., ce sont les grands de ce monde. Alors évidemment, Dupont de Ligonnès, c'est un aristocrate, bon, mais c'est quand même un être ordinaire. Et le fait divers, c'est vraiment l'être ordinaire, c'est la catharsis par l'ordinaire. Moi, ce qui me paraît frappant plutôt dans ce fait divers, c'est ce que disait Pierre à l'instant, c'est ces strates de récits, ces strates de discours. Donc lui a écrit aussi sur des forums catholiques, il y a eu le blog tenu par la sœur, il y a eu cette lettre, c'est-à-dire que avant même qu'il y ait tous ces récits faits par la presse, par des auteurs, par des écrivains, etc., c'est une histoire qui est faite de discours et de récits. Et dans votre enquête, il y a quelque chose qui moi m'a frappé, c'est le fait que lorsque la maison est visitée, enfin plusieurs fois d'ailleurs, et je sais plus à quel moment c'est vu, mais sur la table de chevet de Dupont de Ligonnès, il y a Portée disparue de d'Arlan Coben. Et dans l'adversaire de Carrère, il y a le fait qui est noté que le livre de chevet de Jean-Claude Roman, c'est la chute de Camus, et que il avait répondu à qu'est-ce que la vérité comme question du bac de philo. C'est-à-dire il y a ces petits détails qui font récit, qui sont des espèces d'hypothèses de lecture, etc., et qui font que tout se brouille comme ça.
Comme si le meurtrier ou le suspect avait lui-même pour héros des héros de fiction qui étaient du domaine du policier, du du polar, en tout cas.
D'ailleurs, quelques personnes ont fait le lien entre cette affaire et une affaire qui s'est passée à Westfield dans les années 70, en se demandant si lui-même avait pu connaître cette histoire, s'en inspirer, etc., avec une tuerie dans une maison, une famille, etc. Pour moi, il y a un rapport très clair, j'en parle beaucoup d'ailleurs là, mais avec Jean-Claude Roman, il y a des choses sur cette mythomanie, cette mégalomanie, le fait que l'argent qui manque fait qu'on va peut-être passer à l'acte parce qu'on ne veut pas être non seulement ruiné, mais être l'objet d'opprobre de scandale. Donc pour moi, il y a des liens, non pas seulement donc avec les grands mythes, question que vous me posiez, mais aussi avec d'autres faits divers qui se nourrissent, qui sont dans une intertextualité.
Alors pour revenir sur les mécanismes dramaturgiques de l'histoire, puisque même dans le récit journalistique, là, il y en a tellement, il y a tellement de ressorts et de rebonds, qu'on voit aussi que les multiples identités, la vision rétrospective de la jeunesse, le fait qu'il ait pu utiliser son patronyme à rallonge et d'utiliser des bouts de patronyme pour revendre des voitures sous des fausses identités, tout ça façonne aussi le récit. Ce sont des ficelles de la fiction qui sont utilisées dans la vraie vie comme des astuces pour échapper à la police.
C'est pour échapper à la police, et puis c'est aussi ce qui fait la force, il me semble, du récit de Society, c'est que on a absolument tous les ancrages narratologiques du fait divers, c'est-à-dire en deux parties, avec des chapitres, et les chapitres se suivent d'une partie à l'autre. Il y a un prologue, il y a ensuite une concentration sur certains personnages, une étude des noms, les personnages secondaires qui soudain dans des chapitres deviennent des personnages principaux, et à la fin de la deuxième enquête, un superbe cliffhanger, dirait-on aux États-Unis, avec peut-être une troisième partie, et puis le fait que la police va aller à l'étranger. Donc il y a effectivement tous les aspects du récit et de récits qui s'auto-commentent, qui évoquent aussi dans l'imaginaire du lecteur d'autres faits divers, d'autres histoires, d'autres figures mythologiques aussi, bien sûr, etc. Ça participe de la fascination, il me semble.
Alors, l'histoire, évidemment, du 19e et du 20e siècle, parce qu'on reprend l'histoire de la presse, Dominique Khalifa, évidemment façonnée, jalonnée de faits divers. Est-ce que c'est dans la manière dont on les raconte, les formats qu'on leur octroie, une époque où on parle de formats courts, ce sont des formats longs, là, qui ont un certain succès, Dominique Khalifa. Est-ce que c'est dans la manière dont on les raconte, à la fois sur le format et sur la forme que l'on...
Les grands faits divers sont toujours des formats longs. Je dirais même des formats interminables. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des épisodes. Bien sûr, quand on lit l'affaire Ligonnès, on ne peut pas ne pas penser à cette très très célèbre affaire du 19e siècle qui était l'affaire Troppmann, dans laquelle toute une famille de 8 personnes a été assassinée, enterrée, et dans laquelle on a déterré les corps les uns après les autres de Madame Troppmann, des enfants Troppmann, puis de Monsieur Troppmann, etc. Sauf qu'il n'y a pas eu de mystère sur l'individu, on l'a arrêté tout de suite, mais dans la... Donc, et chaque redécouverte, chaque corps qu'on... Ça se passait dans la plaine de Pantin, chaque corps qu'on ressortait permettait ainsi de rallonger. Il y a ça. Mais l'histoire, elle est quand même tout à fait extraordinaire dans sa complexité et dans l'entrelacement de facettes. Vous disiez, Maëlys, tout à l'heure, il y a cette dimension quasi-anthropologique des grandes figures archétypales. Bien sûr, c'est très net, comme dans tous les grands faits divers. Mais en même temps, c'est hyper contextualisé. C'est les années 80, sans l'Amérique, les lunettes de soleil, la voiture, tout ça. La maison avec piscine qui construit, l'affaire prend pas de la même manière.
Et le revers, la noblesse des argentés, la famille conservatrice.
Ça, c'est très les années 80. C'est très ancré dans un contexte très très précis. Et puis il y a deux histoires qui s'entremêlent. Il y a les meurtres horribles. Et puis il y a la disparition. Et les deux font que effectivement la disparition qui ouvre sur une piste qui est quasi interminable là aussi.
Et la question vertigineuse, c'est la question de l'impunité. En tout cas, pour l'heure,
c'est-à-dire l'indécision,
l'impunité et le fait qu'on ne sache pas tout du déroulement de l'histoire. Peut-être que c'est ça aussi qui caractérise le fait divers à une époque de surveillance numérique, informatique, etc. L'idée d'imaginer qu'il a pu passer au travers des mailles, idée vertigineuse.
Il est peut-être là ou pas là. Regardez combien une affaire qui est maintenant plus que centenaire, comme l'affaire de Jacques l'Éventreur, elle aussi, irrésolue d'une certaine manière, fait
complètement
que...
Complètement même.
Oui, complètement. Mais on trouvera tous les 4 ou 5 ans quelqu'un qui vous dira, j'ai découvert qui était... Vous voyez, c'est ce côté-là qui permet la réactivation permanente. Et il me semble que dans une affaire comme celle-là, et même si on le retrouvait, ou si on retrouvait son cadavre, la réactivation continuera. On efface...
La question se pose, si on le retrouve, de ce qu'il livrerait dans un procès. Parce qu'on a parlé de Jean-Claude Roman avant. Et Roman, justement, c'est un fait divers qui continue de fasciner les gens parce qu'il n'a donné aucune réponse.
Il n'est pas le seul dans le domaine. Ça a été l'histoire de Landru, ça a été l'histoire les grands meurtriers.
Délirantes, insatisfaisantes.
C'est ça. Donc il continue de créer un mystère. Le Roman continue de créer un mystère parce que dans L'Adversaire, c'est d'ailleurs, je trouve, ce qui est très brillant. C'est qu'on se demande si sa repentance est véridique ou falsifiée. De la même manière qu'on se demande si son suicide, sa tentative de suicide est véridique ou falsifiée. Donc ça fait écho à l'affaire en elle-même. La prolongation continue de prolonger l'histoire et l'enquête criminelle. Et c'est là où Roman, à mon avis, continue de fasciner les gens.
Alors, je vous propose d'écouter Pierre Nora sur France Culture. C'était le 25 juin 1974 au micro de Jacques Pogam.
Vous savez, il ne faut pas sous-estimer l'importance révélatrice du fait divers. Et à travers un fait divers, c'est la lecture globale d'une société qui pourrait être menée.
Par exemple,
nous parlions de Bruyères en Artois tout à l'heure. Il est probable qu'à travers ce qui a été un fait divers, on pourrait lire le statut des travailleurs dans la région du Nord, le statut, toute la morale bourgeoise, l'attitude vis-à-vis de la justice. Tout pourrait être lu de l'ensemble des valeurs nationales à travers un fait divers. Je dirais même qu'il m'a toujours frappé qu'il n'y ait pas de fait divers dans la presse des pays de l'Est.
Et comment l'expliquez-vous ?
Oh ben justement, parce que les pays de l'Est n'aiment pas qu'il y ait des événements, et que dans une société aussi normalisée que sont les pays de l'Est, le fait divers est ce qui doit être chassé, parce que c'est l'anormal.
Dominique Khalifa, alors même qu'on est à une époque qui critique beaucoup le voyeurisme, l'argent qui peut être fait par les ventes, alors là c'est l'inverse qui nous est dit. Le fait de raconter, de raconter ces faits divers-là, c'est aussi une manière de regarder les marges. Oui, d'interroger les marges ?
Bien sûr, en permanence.
Mais c'est un fait presque démocratique, d'une certaine manière.
C'est l'histoire démocratique des gens ordinaires. C'est l'histoire des gens ordinaires. Ce que dit Nora est très intéressant. Et on peut même aller plus loin encore dans son explication. Il n'y a pas de fait divers dans les régimes totalitaires, bien sûr. Bien sûr, d'abord parce qu'effectivement, c'est une forme de transgression qui n'a pas sa place. Et puis, dans l'Union soviétique, par exemple, le prolétaire est devenu le héros de l'histoire. Il n'a plus besoin de ces petites histoires parallèles pour exister. Vous voyez, donc, ça, je pourrais poser une question.
Bien Marie, sûr, ça, allez-y.
À Pierre, parce que je me suis beaucoup intéressé aux faits diversiers, etc. etc. Je voudrais savoir, dans l'enquête que vous avez menée, la part du terrain, je veux dire, aller sur les lieux, voir des gens, et la part de l'analyse documentaire sur les textes, qu'est-ce qui a été le plus décisif pour vous ?
C'est une question difficile parce que je crois vraiment que la réponse est entre les deux.
Il y a une répartition entre justement le travail sur les documents et le travail de terrain ?
On a tous travaillé,
les quatre journalistes,
on a travaillé sur les deux aspects. En fait, le travail documentaire est évidemment indispensable pour nourrir tout les faits, la précision des détails qu'on a essayé d'apporter à l'histoire, mais la compréhension des dynamiques psychologiques des personnages secondaires, pas de Ligonès, mais vraiment de ses amis, de l'impact que ça a eu sur eux, de l'impact qu'un fait divers aussi crée, l'onde de choc que ça propage dans la société. On a eu besoin pour ça de terrain, en fait, et de parler avec les gens, et ça remplace quand même pas le travail documentaire. Donc ça a été indispensable. Je pense que notre enquête a pris une valeur supplémentaire à nos yeux au moment où on a rencontré des très proches d'Emmanuel, de Michel, donc sans en révéler tout l'article, mais voilà, on a rencontré les très très proches, et on a aussi rencontré les amis de Ligonès, et cette partie-là nous a éclairé vraiment le récit. On a compris que là, on avait des personnages secondaires qui allaient nous permettre de raconter l'histoire différemment.
Alors ça aussi, ça participe peut-être du plaisir de lecture, Christine Marcandier, c'est cette impression pour le lecteur d'être à la fois dans une fiction parce que il y a plein d'éléments narratifs qui font penser à des héros d'une histoire, et en même temps, tout cela est vrai, et donc encore plus quelque part un ancrage qui est un peu déroutant aussi, de voir les lieux, les cartographies.
Oui,
de devenir enquêteur à son tour.
Tout à fait. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a une forme d'identification, en tout cas aux enquêteurs, que ce soit d'ailleurs les policiers ou les journalistes, parce que c'est deux formes d'enquête, bien sûr. Donc il y a les hypothèses que l'on forge et que l'on voit confirmer ou infirmer au fur et à mesure de sa lecture. Et puis il y a bien sûr à la fois le côté extraordinaire, c'est-à-dire on se dit mais comment c'est possible de faire ça? Comment c'est possible non seulement de tuer toute sa famille, mais de disparaître? Et puis c'est ce que Barthes appelait le prestige du c'est arrivé, donc on sait, Dominique parlait tout à l'heure du c'est arrivé près de chez vous, et c'est effectivement aussi arrivé près de chez nous.
La valeur réelle de l'histoire rajoute une dimension.
Je pense, c'est des lieux qu'on connaît. Moi, j'ai été élevée juste à côté de Roquebrune-sur-Argence, donc je vois les lieux, je vois qu'il a pu effectivement mourir là, peut-être, ou au contraire disparaître là.
Prendre un train pour la Serbie ou un bateau.
Ou plus proche pour l'Italie, prendre un bateau, disparaître, c'est des lieux qu'on connaît. Versailles, on connaît. La Rochelle, enfin tous les lieux par lesquels il est passé. Et donc il y a une forme de terreur proche, disons. Et du coup, il y a ce frisson qui est très particulier, frisson de l'enquête, frisson de se projeter et de s'identifier, ou au contraire de se dire « Oh là là, c'est horrible, je veux pas savoir », parce qu'il y a des côtés, par moments dans la lecture, qui sont très durs, très difficiles. Enfin, il y a des moments, moi non plus, je veux pas révéler ce qui se passe dans l'enquête, parce qu'elle est incroyable, et ceux qui ne l'auraient pas encore lu doivent la lire. Mais c'est parfois insoutenable aussi. Il faut pas oublier ça. Il y a une forme de dégoût, de peur, de terreur.
Alors, d'autant plus que avec cette question justement de la frontière avec la fiction, les écrivains se sont aussi beaucoup emparés de ces faits réels. Il y a tout un jeu entre la littérature, mais aussi le cinéma, les faits divers et les histoires réelles, comme si la vérité de l'histoire lui donnait une valeur supplémentaire, était un début de scénario.
Voilà, c'est tout. C'est le scénario est offert d'une certaine manière, et il est offert dans son indécidable. C'est Carrère qui parle d'indécidable au sens mathématique, justement pour l'adversaire.
Donc le talent, c'est la mise en scène ou la manière de la raconter.
C'est le récit, c'est du récit pur. C'est du récit pur, ce que dit Dominique. C'est une forme de récit. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser avec tous les codes, avec tous les genres, avec tout ce qui fait un récit, tous les pilotis du récit, alors même que pourtant il y a du factuel, il y a des faits et qu'on peut pas tout changer. Mais c'est fait et fiction, c'est tout le new journalism. Je ne sais pas si vous avez aussi pensé à ça en écrivant. Voilà, c'est ce que les anglo-saxons appellent « faction », c'est-à-dire le mélange entre « fact » et fiction, voilà, fait fiction, et c'est des scénarii inouïs et où la réalité dépasse la fiction. On entend souvent ça, et pourtant c'est arrivé.
Alors Dominique Khalifa, c'est vrai que pour nuancer cette question de l'enquête journalistique, même si l'enquête peut nous passionner, le journalisme a aussi une longue histoire avec les faits divers. Je pense à l'histoire du petit Grégory aussi, où les journalistes n'ont pas fait que du bien dans ces affaires-là. Je ne dis pas ça pour vous, Pierre Boisson, mais néanmoins, il y a des questions éthiques qui se posent dans le récit, la manière dont on le restitue, la manière dont on l'alimente.
Bien sûr. Le discrédit, une grande partie du discrédit de la presse, à grand tirage, on va dire, de la presse devenue presse de masse, donc à partir de la seconde moitié du 19e siècle, une grande partie du discrédit qui a pesé, qui continue d'une certaine manière de peser sur les journaux, tient effectivement à cette critique très forte qui est celle de dire... Oui, vous développez un intérêt pour le malsain. Dans les affaires judiciaires, vous menacez la légitimité de l'enquête officielle en menant des enquêtes latérales ou des enquêtes périphériques et qui viennent brouiller le travail des investigateurs officiels, même si effectivement, comme vous l'avez dit Pierre, les logiques ne sont pas exactement les mêmes.
Oui, mais ça s'est passé quand même. Oui. Par le passé, il y a eu des affaires, des dossiers révélés, il y a eu des fuites, il y a eu des accointances qui ont été révélées dans des affaires.
Les journalistes ont en permanence, depuis le milieu du 19e siècle, mené des contre-enquêtes qui venaient se interférer avec les... Dans un élément à la fois de partenariat et de challenge, de rejet, d'exclusion. Donc oui, bien, et le fait effectivement de mettre comme ça, de déballer en place publique, de mettre l'accent sur les bas instincts, sur le malsain, sur le brutal, c'est quelque chose qui accompagne l'histoire du fait divers depuis sa naissance.
Avec une autre menace, celle de ne plus être objectif, celle d'être parti pris. Dans l'affaire Grégory, ça a été un élément très important. Hein. On savait exactement dans quelle partie de la presse était d'un côté et de l'autre de la famille, par exemple.
Avec des idéologies effectivement qui peuvent intervenir dans les choix de récit ou dans les choix de mais globalement quand même si on regarde un petit peu ça d'un peu haut, on s'aperçoit que de la droite conservatrice et réactionnaire à la gauche révolutionnaire sur le long 19-20e, là il y a eu le même rejet de la logique du fait divers en disant d'un côté c'est malsain, c'est affreux et de l'autre c'est l'opium du peuple, c'est pour détourner. Cette modalité de récit a toujours été considérée comme illégitime. Et c'est, sauf à de rares moments quand Sartre ou quelques autres disent il faut s'emparer du fait divers pour commencer à raconter des histoires ou ce que certains type de journaux ou d'investigations vont faire, mais on a quand même globalement eu toujours cette disqualification, ce discrédit porté sur ce type de récit, alors même, et peut-être parce que, il était au cœur de la fascination et de l'intérêt du public.
Alors Christine Marcandier, cette question-là aussi, c'est celle du tabou qui est révélée. Il y a moins de problèmes sur la question du meurtrier dans l'affaire Ligonnès, même si le procès n'a pas été fait, etc. La suspicion est très forte. Mais aucun autre suspect ne s'est vraiment présenté dans l'enquête pour l'heure, comme pour le cas de Grégory, où là, c'était vraiment une question beaucoup plus ouverte. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette question des tabous, c'est-à-dire le meurtre d'enfants, de son propre enfant, de ses propres enfants, de sa femme? C'est aussi parce que le fait divers vient travailler des tabous, des interdits, qu'il prend cette dimension-là. C'est aussi les histoires d'empoisonneux, c'est aussi l'histoire de Violette.
Bien sûr, mais après, je ne sais pas si les faits divers qui fascinent véritablement, c'est lié simplement à l'horreur du crime. Pour moi, c'est vraiment lié aussi aux disjonctions qui s'opèrent, le fait qu'on ne sait pas vraiment. C'est lié au mystère, c'est lié aux disparitions, c'est lié à la richesse du récit qui peut se construire depuis une horreur première, c'est certain. Mais on revient à la question des mythes que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des grands paradigmes de notre histoire.
Une part de l'humanité aussi, hein, peut-être ces questions psychologiques qu'on évoquait tout à l'heure.
Oui, et ça a participé aussi d'une fascination au 19e siècle pour le crime, c'est-à-dire qu'on essayait de classifier, qu'on essayait de hiérarchiser, de reconnaître. Enfin, il y a eu toutes des études. Enfin, bon, on peut aussi renvoyer à Foucault et à cette question du surveiller et punir, etc. Enfin, il y a toujours eu une volonté à la fois de classifier, de tenter de comprendre, de maîtriser tout ce qui échappe à la société, et en même temps une fascination pour les marges, une fascination pour ce qui échappe, ce que vous disiez, Dominique Khalifa, c'est-à-dire les infanticides. Enfin, on pense à Duras aussi par rapport à au petit Grégory. Enfin, sublime, forcément sublime.
Et les conséquences dramatiques.
Et les conséquences. Mais après, c'est un écrivain une auteure qui prend position et qui vient voir dans le fait divers quelque chose qui correspond à son univers romanesque, à ces femmes puissantes, ces femmes infanticides, etc. Il y avait un écho, et donc. Après, ça a fait du mal, bien sûr.
Une des dimensions de cette enquête, Pierre Boisson, c'est la fabrique du crime, d'une certaine manière. C'est-à-dire, même s'il n'y a pas de volonté de s'appesantir sur les questions psychologiques sous-jacentes, même si vous parlez quand même d'emprise, il y a des mécanismes qui sont un peu expliqués, sans être tant que ça développé d'ailleurs, il y a la question du sous-jacement et de l'arbre généalogique, en réalité. Qu'est-ce qui aurait pu créer un terreau favorable à ce crime d'une famille entière?
C'est là où on essaye de faire la distinction entre projection psychologique et fait. C'est-à-dire qu'on construit, nous, vraiment le récit uniquement sur des éléments factuels, probants, qui nous permettent de reconstituer des cercles vicieux ou des chaînes de cause à effet. Il y a effectivement cette question de l'emprise, mais on n'a pas non plus créé de projection à la place d'une victime. Et une des choses qu'on a découvert...
Mais vous auriez pu vous servir de la psychologie et du savoir sans que ce soit assez... aussi une science au même titre que l'histoire, que de chercher d'autres référencements théoriques qui permettraient de comprendre.
Ce qu'on a fait, mais sans essayer de se mettre à la place d'Agnès Ligonès et sans non plus analyser, psychanalyser a posteriori quelqu'un qui n'est plus là pour témoigner, qu'on ne peut pas interroger. Il y a une limite à cet acte scientifique qu'on pourrait faire. On a lu, hein, moi je me rappelle avoir lu des articles sur l'emprise, comment ça se matérialisait, etc. pour aussi essayer d'avoir une analyse textuelle des écritures d'Agnès Ligonès. Mais je pense que on peut pas se projeter sur une victime qui n'a pas la parole. Par exemple, ce qu'on a pu faire, nous, c'est reconstituer toute une chaîne d'endettement qui est la même, en fait, ou similaire à celle de l'affaire Jean-Claude Roman et qui est très intéressante. Parce que là, à nouveau, c'est encore un récit qu'on construit.
Et c'est une sorte de facteur déclencheur quand même de l'affaire. Hein. C'est la fameuse pseudo-pyramide de Ponzi, en tout cas un système de dette, à la fois s'endetter auprès des banques, etc., des crédits à la consommation, et puis des systèmes d'emprunt auprès d'amis qui font qu'on rembourse partiellement, qu'on réemprunte.
Voilà, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les chiffres sont aussi du récit. Vous pouvez avoir des dettes partout et les mettre à plat. Et nous, ce qu'on a au fur et à mesure compris, c'est qu'il y avait un enchaînement et qu'effectivement, il y a eu une première dette. Puis une deuxième, et cette deuxième dette, c'était des crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, ça raconte aussi un fait sociétal. À cette époque-là, il y a des crédits à la consommation qui sont souscrits partout.
À 20%,
c'est... À 20%, raconté, il faut rembourser, c'est interminable. Ligonès, il rembourse, par exemple, il emprunte 20 000 euros, il en rembourse 19 000, il en doit encore 17 000. D'ailleurs, Carrère a parlé de cette crédit à la consommation dans un de ses livres qui est fascinant. Et puis donc, pour rembourser ses crédits à la consommation, il s'endette auprès de ses amis, auprès de sa famille, auprès des amis de ses amis, c'est interminable. Et quand on reconstruit toute cette pyramide, effectivement, ça devient un nouveau récit d'une spirale, d'une pyramide d'endettement. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant de pouvoir construire ça. Et puis après, il y a des circonstances qui sont aussi terribles. C'est-à-dire que le père de Ligonès avait une maîtresse qui s'appelait Catherine. Ligonès a une maîtresse qui s'appelle Catherine. Le père de Ligonès était endetté auprès de l'URSSAF. Sa première dette, c'était l'URSSAF. Ligonès, sa première dette, c'est auprès de l'URSSAF.
Donc même sans faire de psychologie primaire, on voit quand même qu'il y a un scénario familial qui est plus que mystérieux.
Mystérieux et fascinant de mettre en juxtaposition ces deux éléments-là. Le père de Ligonès meurt 3 mois avant les crimes. Que Ligonès ait eu la même dette, ait commis les mêmes erreurs que son père, alors qu'il a essayé toute sa vie de ne pas les répéter, c'est pour moi très troublant. Mais on n'a pas essayé de tirer une analyse psychologique de ça. On les met ces éléments-là, l'un à côté de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Pas plus que cette juxtaposition.
Alors, rapidement, Christine Marcandier, c'est aussi les masques qui fascinent dans cette histoire. Hein. Les masques infinis de Ligonès, comme si, finalement, il y avait toujours une nouvelle carte à sortir, avec peut-être une vision exacerbée aussi de ce qu'on imagine comme étant de l'agilité, de l'intelligence. En tout cas, il y a cette notion-là qui fascine aussi.
Oui, il a peut-être qu'il se cache à lui-même d'ailleurs hein, depuis le début. Il a essayé d'être quelqu'un, il n'y est pas parvenu. Il a essayé de construire une fiction de lui-même. Et puis soudain, c'est l'autre lien avec l'affaire Jean-Claude Roman. Il tombe amoureux d'une autre femme, qui est une récurrence de son histoire parce qu'il l'a connue jeune. Et puis tout s'écroule. C'est ce qui va faire écrouler la pyramide dont vous parliez, Pierre. Il y a quelque chose qui fait qu'on cherche à se cacher à soi et puis soudain on apparaît dans une forme de vérité Et c'est une vérité opaque, c'est une vérité indécidable, et c'est ce qui fait que je pense qu'on pourra parler encore pendant très 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 longtemps de ce fait divers et des faits divers en général.
Dominique Khalifa, juste un dernier élément. Dans la question du journalisme long format et du succès de la presse écrite, là, succès quand même notable dans un contexte économique compliqué pour la presse écrite et encore plus le long format, cette manière de devenir une sorte d'histoire du présent dans la narration longue, un travail d'enquête auquel on est peu habitué en France, des formats longs, des enquêtes menées sur 4 ans pour certains par plusieurs journalistes. Cette manière-là de documenter, elle a aussi son impact sur la manière dont on écrit ce récit.
Oui, bien sûr, et puis elle permet surtout de comprendre. Enfin, je veux dire, elle permet surtout de comprendre que vous avez raison. Comment, dans le contexte actuel, alors que la presse papier est en train de péricliter partout, vous arrivez effectivement à produire cet extraordinaire intérêt public. Hein, y en a plus. Hein, ils sont épuisés dans tous les kiosques.
Il y a même des sites qui sont revendus 3 fois le prix.
Mais à partir d'aujourd'hui, on peut les retrouver.
C'est comme ça quand même. Dans l'histoire de la presse française, ce modèle de récits faits diversiers centrés effectivement sur une narration très longue, feuilletonne, quasi feuilletonnesque. C'est pas un modèle aussi fréquent que ça dans l'histoire de la presse française. On trouve ailleurs dans d'autres cultures des formes parallèles, mais là on est vraiment. Il y a une forte originalité qui explique aussi votre succès. Quoi.
Et il faut qu'on s'arrête. Merci à tous les trois, Christine Marcandier, Pierre Boisson et Dominique Khalifa. Je vous renvoie aux 2 numéros de Society réimprimés, mais aussi à Diacritique. Et dans un autre registre, au dernier livre dirigé par Dominique Khalifa, Les noms d'époque, tout de suite, la fiction de France Culture.
Le Parlement sensible.
Adieu à l'hiver, de Cécile Weisbrot. 1552. Pantagruel et ses compagnons abordent aux confins de la mer glaciale quand ils entendent des cris. Autour d'eux, l'océan, de toutes parts. Le nautier les rassure. Ce que vous entendez, ce sont les mots d'une guerre ancienne qui eut lieu l'hiver dernier, que le froid a gelé. Avec le redoux, les paroles dégèlent, mais les combattants ont disparu depuis longtemps. Fin du XXIe siècle. Sous l'effet du réchauffement climatique, la calotte glaciaire au pôle Nord a fondu, faisant monter le niveau des mers. Le Japon est submergé et Venise engloutie, tandis qu'à Paris, les promeneurs du jardin des Tuileries parcourent une forêt de bambous. 1999. Le roman de Norman Spinrad, d'où vient cette évocation, paraît l'année de la grande tempête qui détruira les arbres des Tuileries, des jardins de Versailles et des forêts de l'Ouest. À Paris, le vent soufflait jusqu'à 200 km/h. Novembre 2015. Arbres déracinés, routes explosées, digues fracassées, vagues démesurées, villes dévastées. Les images qui tournent sur nos écrans rendent le commentaire en voix off presque inutile. Pourtant, les mots ont quelque chose à dire. Nous qui écrivons, nous le savons bien. 2050, le passage du Nord-Ouest, longtemps cherché, qui provoqua tant de naufrages, le passage entre la Sibérie et l'Alaska est désormais navigable en été. Mais le partage des eaux et des ressources a généré des guerres entre les pays du Grand Nord. Hiver 2014-2015, l'hiver le plus chaud depuis l'existence des statistiques. Mais ça ne suffit pas. Il faut pouvoir prendre un verre en terrasse en janvier et décembre, comme en juin ou en août, et pousse des champignons de métal nourris au gaz. 1565. Deux hommes, silhouettes sombres, suivis de chiens, descendent une colline blanche. Ils se dirigent vers le village. Les lignes noires des arbres se font plus rares. En bas, l'eau a gelé et le vert de la glace reflète celui du ciel d'hiver. Les chasseurs dans la neige, de Bruegel l'Ancien, appartient à une série de tableaux, Les Mois, commandés par un banquier d'Anvers. 1415. Charles d'Orléans, pendant ses 25 années de captivité en Angleterre, ne cesse d'écrire des poèmes, dont celui-ci. « Hiver, vous n'êtes qu'un vilain ». Voici le début de la dernière strophe. « Mais vous, hiver, trop être plein de neige, vent, pluie et grésil, on vous doit bannir en exil. » 2015. S'il le pouvait, les gens banniraient l'hiver, comme Charles d'Orléans. Alors le réchauffement climatique, n'est-ce pas une belle opportunité, l'occasion de vivre un été perpétuel? Jusqu'à présent, les conséquences du réchauffement sont à peine parvenues jusqu'à nous. Les catastrophes climatiques les plus graves concernent surtout l'Afrique, l'Asie, parfois les États-Unis, le Canada. En Europe, nous sommes épargnés. Du moins, nous le croyons. Pourtant, certains échos devraient résonner. La faute sur mer, au nom prédestiné. La tempête Xynthia. 1866. Dans un long préambule aux travailleurs de la mer, intitulé « L'archipel de la Manche », Victor Hugo écrit « La mer édifie et démolit. L'homme aide la mer, non à bâtir, mais à détruire. Tout sous lui se modifie et s'altère, soit pour le mieux, soit pour le pire. Ici, il défigure, là, il transfigure. » Aujourd'hui, déjà, est-on tenté de dire en lisant Victor Hugo, déjà, ces lignes tirées du « Printemps silencieux » de Rachel Carson, écrites en 1962. La plus alarmante des attaques de l'homme sur l'environnement est la contamination de l'atmosphère, du sol, des rivières et de la mer par des substances dangereuses et même mortelles. Déjà, diront les hommes en 2065, s'il en reste, lisant ceux qui avertissaient au début du XXIe siècle, écoutant ceux qui espéraient limiter le réchauffement à moins de 2 degrés alors qu'il en aura atteint 4 ou 5. Ils savaient, diront-ils, ajoutant avec un soupir, pourquoi n'ont-ils rien fait? Hiver 2014, hiver 2015, hiver sans neige, la préfiguration d'années sans hiver. 1967. Le froid a envahi le monde. Une ville où les ruines laissées par une guerre étrange sont le cadre de la quête d'un homme à la poursuite d'une jeune femme aimée. Anna Cavan, c'est l'auteur. Et le livre s'appelle Ice en anglais, neige en français. En voici un extrait. Il neigeait abondamment. C'est à peine si je pouvais distinguer les ruines les plus proches, ombres blanches immobiles, derrière l'écran mouvant de blanc qui tombait. Et plus loin, quelque chose s'était déréglé dans le temps. D'épaisses écharpes de brume blanche restaient accrochées au sommet des arbres. Les animaux de la forêt étaient perturbés et leurs habitudes s'en trouvaient bouleversées. De tout temps, la métaphore a guidé l'imagination. Les paysages des tableaux et des livres sont nés de l'extrapolation de paysages réels que nous traversons. Nous les interprétons, nous les exagérons, nous les épurons. Un hiver particulièrement froid donne les débuts d'une ère glaciaire. Le ciel sombre d'un paysage de neige devient d'un vert étrange. La guerre froide, l'eau refroidie des réacteurs nucléaires deviennent des étendues glacées infinies que les héros intrépides des films catastrophes ne parviennent à vaincre qu'à grand-peine. Deux enfants doivent affronter la montagne pour rentrer avant la tempête de neige, mais celle-ci vient plus tôt que prévu et ils s'égarent. Un maître tient à traverser la forêt de nuit pour arriver au matin, malgré la neige qui ne cesse de tomber, effaçant tout repère. Son serviteur le suit. C'est l'hiver du XIXe siècle, où les enfants sont sauvés par la foi, nuit de Noël, et le serviteur par son maître, qui, sous l'effet d'une révélation, le couvre de son corps, de son manteau. Nous sommes chez Tolstoï, nous sommes chez Stifter, tandis qu'au XXe siècle, une petite fille se perd dans le palais de glace, celui de Vesas, en Norvège, jusqu'à se confondre avec lui en une présence étrange. Au XXIe siècle, pourrons-nous encore écrire l'hiver? Saurons-nous le lire? Comprendrons-nous ces tableaux et ces livres qui le dépeignent? La nuit du monde menace, et le passé montre la voie du futur. C'est la peur qui est en son emprise. Nous avons les yeux grands ouverts sur ce qui se passe aujourd'hui. Nous savons et nous anticipons dans les projections scientifiques, dans les récits de science-fiction. Nous savons, mais qu'allons-nous faire?
Le Parlement sensible. Adieu à l'hiver, de Cécile Weisbrot.
Le Parlement sensible.
Le barrage de Marilyn Débiol.
Barrage, barrière, obstacle. En psychiatrie, arrêt brusque de la parole. Un barrage contre le Pacifique. Ouvrage d'art, retenue d'eau, irrigation. Villages engloutis, bâtiments, fleurs et bestioles. S'opposer, faire barrage. Je crois depuis l'enfance que les désastres arrivent toujours la nuit, qu'ils nous prennent par surprise, nous si vulnérables dans nos vêtements de nuit, qu'ils font alliance avec nos monstres familiers. Il faisait encore nuit l'hiver 1967, quand la terre a tremblé à 4 heures du matin et que nous nous sommes retrouvés dans la rue en pyjama et chemise de nuit, si effrayés que je ne me souviens pas d'avoir eu froid. Et nous nous apprêtions à nous mettre au lit quand on a frappé à la porte pour nous prévenir que la menuiserie où travaillait mon père était en feu. Je crois aussi me souvenir de l'annonce de la catastrophe de Malpasset. Il me semble entendre la tension dans la voix de mes parents, qui parlaient pourtant bas pour ne pas me réveiller.
Le barrage de Malpasset,
car il est bien possible qu'il l'ait appris la nuit même du drame, comme mon père se lève très tôt, dans l'obscurité, et qu'il écoute sans doute la radio en buvant du café. Mais c'est un souvenir inventé, car je n'ai pas tout à fait 7 mois le 2 décembre 1959, quand le barrage a cédé. Au-dessus de Fréjus, dans la vallée du Réran, au lieu dit Malpasset, mauvais pas, à quelques kilomètres de Nice et du village où je commence à vivre. Au-dessus de Fréjus, alors que les Alpes-Maritimes et le Var viennent de partager le même mauvais temps, mauvais pas, mauvais temps, dont les images d'archives me désignent la violence inédite sur la Côte d'Azur. Je ne crois pas qu'il y ait eu depuis de telles pluies diluviennes mêlées à l'ouragan qui fait passer les vagues par-dessus la balustrade de la promenade des Anglais et rouler comme des galets les chaises bleues sur la chaussée, où de rares voitures se feraient un passage, de l'eau jusqu'au moyeu. Et les rues de la ville sont en eau, on écope dans les cafés chez le coiffeur, les femmes sourient pour le caméraman, elles portent des bottes en caoutchouc. Au village, il devait y avoir des éboulements et glissements de terrain, des cascades sur les restants dont les pierres sont desserties. Il arrive ici que les pluies lessivent la colline jusqu'à l'os, mais jamais comme en 1959. Le 2 décembre, le soleil était pourtant revenu. Les autorités avaient survolé le barrage en hélicoptère. Le barrage n'avait jamais retenu autant d'eau. Ce devait être beau, cette étendue d'eau toute neuve. Et on avait conclu qu'il n'y avait rien à craindre, comme si cette vision d'au-dessus rendait maître de la situation. À cette altitude, le barrage de Malpasset était dans la poche. Les craintes du gardien, on ne les entendit pas. Sans doute était-il trop bas. Vers 6 heures de l'après-midi, on ouvre cependant la vanne de délestage. On ne sait pas que c'est trop tard. Dans la soirée, à Fréjus comme ailleurs, on est devant le poste de télévision, le sien ou celui d'amis, de parents chez qui on s'est réunis avec les enfants qui ne vont pas à l'école le lendemain, pour regarder comme tous les 15 jours, le mercredi soir, La piste aux étoiles de Gilles Margaritis. Ce soir-là, le 2 décembre 1959, apparaît Achille Zavatta qui fait un saut périlleux en caleçon à rayures. Il est un peu plus de 9 heures quand le gardien, tout petit chez lui dans la vallée, en aval du barrage, entend des craquements et un souffle inouï qui ouvre portes et fenêtres. Il voit une grande lueur et les lumières électriques s'éteignent à des kilomètres à la ronde. Le barrage vient de se rompre, libérant d'un coup des milliers de mètres cubes d'eau qui entraînent des blocs de béton gros comme des maisons, comme s'il s'agissait des galets ou des chaises bleues de la promenade des Anglais. L'eau déferle jusqu'à Fréjus et la mer, ravageant tout sur son passage. Les pêchers, les moutons, les fermes, le train Marseille-Nice. Elle cause la mort de 423 personnes. C'est la plus grande catastrophe civile qu'ait connue la France. 423 morts, dont 135 enfants. Les plus petits dormaient déjà, les autres regardaient Achille Zavatta. Certains lisaient un livre, certains ne faisaient rien, avant que la nuit vienne et s'agrandisse. Et puis de longues minutes après, l'eau et la boue qui les rendraient méconnaissables. Je n'étais jamais allée voir les ruines de Malpasset qu'on devine depuis l'autoroute. Malpasset pour moi évoquait la nuit, l'effrayante nuit, même en plein jour. Comment a-t-on pu être sourd à un nom si funeste? Sourd aux craintes des paysans de la vallée dont on devait penser qu'ils étaient arriérés, terrifiés par un mot, comme de lointaines tribus par les esprits. Sur le chemin de terre, en remontant la vallée du Réran vers les ruines du barrage, je pense à eux, aux paysans, au saccage des terres fertiles. Le saccage, on l'éprouve ici, on le côtoie. Le chaos des blocs de béton gigantesques renversés dans le lit du Réran avec leurs ferrailles rouillées, toujours hirsutes, tentant de s'agripper à l'air très doux en ce glorieux jour de mai 2015. Les blocs de béton sont intimement mêlés aux éboulis de la roche qui ne cessent de se répandre. Car ce n'est pas la construction qui a failli, mais son assise, trahie par une géologie qu'on a méconnue. Mauvais pas, mauvais temps, mauvaise connaissance. Je marche dans le saccage. Rien à voir avec les ruines des arènes romaines de Fréjus si paisibles et que la vague de 1959 n'a d'ailleurs pas fait vaciller. Les ruines ici ne disent pas le passé, mais le danger qui nous guette. Je pense de nouveau au gardien, André Ferrou, qu'on n'a pas entendu lui non plus, et qui n'avait pas de téléphone pour donner l'alerte. Et comme j'arrive devant le barrage bouffé à mort par une mâchoire invraisemblable, je pense à l'architecte, mort de désespoir moins de 6 mois après la catastrophe. Dans le lit du Réran, un grand saule argenté rend hommage à André Coine, qui était fier de ses barrages-voûtes, réputés indestructibles, le barrage de Tignes, de Serponçon, ou le barrage de l'Aigle dit le barrage de la Résistance, dont l'architecte et son équipe retardèrent l'achèvement pendant la Seconde Guerre mondiale pour ne pas le livrer à l'occupant. Car la catastrophe de Malpasset, c'est aussi la faillite d'un ouvrage d'art, d'un chantier auquel ont travaillé des centaines d'hommes et que je n'ai pas le cœur de vouer aux orties, à la broussaille qui envahit le mauvais pas. Je pense aux chantiers des hommes, à nos chantiers arrogants, désespérés, magnifiques et qui sont notre chair comme les lieux qu'ils bouleversent. Je pense tout en même temps à notre démesure, nos aveuglements, nos surdités, à l'attention constante et extraordinaire qu'il faut porter au monde pour ne pas que les désastres, ces désastres résistibles, nous prennent par surprise dans nos lits, comme de petits enfants dans leurs vêtements de nuit. Je pense à ce travail d'attention, de connaissance, à ce travail qui est le nôtre désormais, dont chacun de nous a la charge, et je ne pense pas à lui comme à un acte de contrition, mais comme à un immense chantier, arrogant, désespéré, magnifique.
Le Parlement sensible. Le barrage, de Marilyn Débiol.
C'est l'heure de la chronique de François Sureau, La Seine et nos amours, aujourd'hui Sainte-Adresse ou le Nice Havré.
Nous sommes partis de Sources-Seine et dans notre voyage, nous allons bientôt arriver au Havre. Terme de ce voyage que nous abordons à présent par une de ces banlieues qui s'appelle Sainte-Adresse. Et comme la Seine est un fleuve imprévisible, nous sommes heureux de vous montrer là ce matin, Vincent Deck et moi, la capitale de la Belgique. Car nous aurions pu être ici en Belgique, dans la capitale de la Belgique, entre 1914 et 1918. Nous sommes donc dans cette banlieue du Havre, dans cette Sainte-Adresse dont parle Mérimée dans sa célèbre dictée. Et nous sommes sur l'avenue des Régates, sur le front de mer, une avenue qui est une copie de la promenade des Anglais. Il n'y a pas sur les bords de la Seine, contrairement à ce que vous pourriez croire pour nous avoir écoutés, Vincent et moi, depuis quelques semaines, il n'y a pas sur les bords de la Seine que des chefs-d'œuvre du classicisme, de l'art roman ou de la mystique. Non, il y a aussi les chefs-d'œuvre du kitsch et de la thune, comme à Samoa avec les affolantes des bords de Seine dans le genre villa ou ici dans le genre monumental. Ces bâtiments effroyables dégagent une curieuse tristesse roumaine et salée. Et on se demande dans quel esprit malade est venue l'idée de transporter Nice sur les bords de l'Atlantique. Peut-être simplement que les palmiers niçois nous manquent et je dois dire, pour employer le langage des guides, que rien de tout cela ne vaut le détour, sauf pour parler de Dufayel et bien sûr pour parler de la Belgique, un pays que nous aimons tendrement. Pourquoi Dufayel ? Parce que c'est à partir de 1905 que cet homme d'affaires étonnant créa le Nice Havrais à partir de rien. Personne ne se souvient plus de Dufayel, auquel en son temps Apollinaire a consacré son premier article de journaliste. Dufayel a pourtant inventé vers 1890 quelque chose qu'on utilise toujours maintenant et qui est le mélange du grand magasin d'ameublement et du crédit à la consommation. Et pour lui, les architectes Lebeg et Rive avaient édifié un ensemble absolument monstrueux, qui ressemblait un peu au grand temple bancaire du comptoir d'escompte ou du Crédit Lyonnais. Et ce sont des bâtiments dont les vestiges subsistent à Paris. Quand on va au 26 de la rue de Clignancourt, on voit un gigantesque quadrilatère d'un peu plus d'un hectare qui est délimité par le boulevard Barbès, la rue de Clignancourt, donc la rue Christiani et la rue de Sofia. Et c'est une espèce de gigantesque palais monstrueux qui aujourd'hui a été transformé. Mais c'était autrefois le gigantesque palais monumental de Dufayel. L'entrée était ornée d'un fronton de Dalou et de sculptures de Falguière et était coiffée d'un dôme qui représentait un phare éclairant Paris. Alors le dôme et le phare ont disparu, mais en fait, quand même, quand on voit tout ça, on se dit qu'on n'a jamais été plus timbré qu'à cette époque. Parce qu'il est vrai que Dufayel n'était pas du tout raisonnable. Son entreprise, au fond, mais qui a par ailleurs magnifiquement réussi, son entreprise rappelle vraiment la tour de Babel. Ce quadrilatère de Rochechouart présentait une étendue monstrueuse. Il faisait ressembler à une sorte de place Saint-Marc multipliée par 100 par l'effet d'un jeu de miroir. Le porche, par exemple, dont je viens de parler, le porche de Falguière, Il évoque l'entrée d'une gare monstrueuse d'où d'immenses trains ne partiraient pas, et celle d'une cité tout sauf interdite et ouverte au contraire à des rencontres absolument improbables. C'était d'ailleurs une cité étrange. On pouvait y aller au théâtre, au cinématographe, on pouvait rêver dans le jardin d'hiver. Dufayel y faisait donner des concerts, des conférences, des réunions scientifiques, et on paierait plus tard. Et pendant que le chaland errait dans le dédale du luxe à bas prix, protégé par deux statues qui l'une représentait le crédit et l'autre la publicité, et rêvant sur de monstrueuses chambres à coucher en noyer ciré avec des lits monumentaux prêts à supporter les ébats sexuels les plus vigoureux, éblouis par des centaines de candélabres et de tableaux, par les stucs, multiplié lui-même à l'infini par un jeu de glace absolument invraisemblable, bref, le chaland, rêvant de consommation à la fois sociale et lubrique et récréative, bref, pendant que le chaland déambulait, en même temps, des agents se présentaient chez sa concierge et s'enquéraient de ses habitudes et de sa capacité à honorer ses échéances. C'était le premier mélange, en réalité, de la réclame, du commerce et de la police, à quoi l'époque de l'Internet a donné, comme on sait, une extension absolument considérable. Alors, il y avait là-dedans une sorte d'accumulation maboule. Et cette accumulation est d'époque, elle est intéressante. Les créateurs du Titanic, eux aussi, par exemple le paquebot, avaient attendu de grandes choses de l'accumulation. Et au fond, le Titanic, c'est une sorte de quadrilatère de Dufayel lancé à la rencontre des icebergs avec le café français, le hammam turc, la bibliothèque anglaise voguant sur des abîmes glacés. On peut quand même, cela dit, relever de bons côtés dans cet éclectisme dément, comme le fait que Dufayel ait fait travailler Jean Dupas. Alors on s'en étonne un peu parce qu'il y a chez Jean Dupas, qui est très oublié aujourd'hui, une vitalité créatrice mal accordée à la monomanie du capitalisme commercial. Dupas était un artiste étonnant qui passait de l'art sacré au catalogue des fourrures Max et du grand salon du Normandie qui fait ressembler le Titanic à un saloon du Kansas, au métro de Londres ou du palais des colonies, à des maisons privées qu'il décorait. Et je suis content que Dufayel, parce que ça serait un peu décourageant, nous donne l'occasion de nous souvenir de Dupas, artiste rêveur et monumental, une sorte de Boutet de Montvel défiguré par Dali ou un Lempicka qui se serait perdu dans les arcades de Quirico. Parce que pour le reste, franchement, le satanisme de Dufayel ne se laisse pas oublier. Je me suis demandé à quoi ça ressemblait, enfin, ce que c'était, ce que ça voulait dire. Au fond, ce satanisme, je pense, ne tient pas seulement à l'alliance méphitique de la consommation et du crédit, de la vente sur réclame et de la police privée, ou à ce goût de l'accumulation dont je viens de parler. En fait, ce satanisme dufayelien tient à cette manie du déplacement, à cet idéal de la transplantation, déplacement et transplantation destinés à montrer que l'argent peut tout, et dont on peut voir aujourd'hui les fâcheux résultats, là où nous sommes, à Sainte-Adresse. On croirait un cauchemar d'Elon Musk organisé par Bofill, c'est affreux, mais c'est plus fréquent qu'on ne croit. Par exemple, je me souviens d'avoir vu vers 1980, sur le port de Bordeaux, une folie bordelaise du 18e démontée pièce par pièce pour être remontée, pierre numérotée, dans le Nebraska. Il y a par exemple les cloisters, c'est les cloîtres de New York, encore qu'un cloître soit transportable par nature, parce que, au fond, un cloître n'a pas à voir avec l'ici-bas mais avec l'ailleurs et vise à reproduire partout un ordre foncièrement déraciné. Il est donc moins choquant de déplacer les cloisters que Nice. Mais ce qui nous fascine ici, ce n'est pas l'effarant mauvais goût diabolique de Dufayel reconstituant Nice sur les bords de l'Atlantique, c'est que l'histoire a mis au fond un point d'orgue à la folie d'un homme. Dufayel avait transporté donc Nice au Havre, ce qui était déjà risible. En 1914, le gouvernement belge, lui, transporte Bruxelles dans le Nice havrais, c'est-à-dire qu'il fait du Nice havrais la capitale de la Belgique. Alors que la Belgique soit partout chez elle, dès lors qu'on aime la poésie de l'existence, personne n'en disconviendra, et surtout pas un amateur de Simon Leys, de Nouget et de Simenon. La Belgique est un Congo blanc, propice à toutes sortes d'aventures extraordinaires. Mais enfin, malgré tout, cette capitale-là nous coupe littéralement le sifflet. Des ministères belges y habitèrent pendant 4 ans, comme dans un Vichy Atlantique, 1000 personnes colonisant les hôtels. On y imprima des timbres-poste et l'on y fit même exploser accidentellement une mine d'armement, comme quoi les États, en exil ou non, font toujours ce qu'ils peuvent. Il faut porter au crédit d'Albert Ier, le roi chevalier que tous les Français ont aimé, qu'il ne vint jamais à Sainte-Adresse, parce que c'était un homme de goût, qu'il ne s'établit jamais dans le Nice Havrais, bien qu'on puisse y voir aujourd'hui sa statue monumentale devant laquelle nous sommes passés tout à l'heure, et qu'il soit possible d'arpenter le boulevard auquel il a donné son nom. Quant à Dufayel, il connut une fin de vie paisible, ayant adopté pour devise « bien faire » et « laisser dire ». Il nous aurait laissé dire, du mal de lui en particulier, même si je ne suis pas absolument convaincu qu'il ait totalement bien fait. Il avait fini par acquérir une maison sur les Champs-Élysées, il y avait fait construire par Rive une sorte de palais. La vérité oblige à dire qu'il ne parvint pas à habiter ce palais, parce que le palais était trop somptueux pour lui, il se contenta donc d'une petite maison dans la cour, d'où il observait sans cesse son palais vide. Dufayel mourut sans femme ni enfant, et a eu quand même la bonne idée de léguer à ses employés son immense fortune, à une seule condition. L'argent ne pouvait aller à un employé qui avait à se reprocher un seul jour de grève. Reposons nos yeux au spectacle de cette mer couleur d'argent liquide et quittons sans regret le Nice à vrai et Dufayel.
On se retrouve demain pour une nouvelle grande table d'été consacrée à la rentrée littéraire jeunesse. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Chouchen Djergaillon, Luc Quevauvillier, Lila Bozès, Judith Kravitch et Mathieu Bellini. À la réalisation Lise Combe, à la technique Ludovic Auger. Je vous rappelle que cette émission est disponible en réécoute et en podcast sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France.